Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Incroyable mais vrai, même Franck Ferrand s'est mis au football, en tout cas à l'histoire du football. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ne rêvez quand même pas trop. Eugène Saccomanno est aujourd'hui notre invité pour évoquer l'histoire étonnante d'un footballeur auquel il vient de consacrer un ouvrage. Je vais vous raconter ça dans un instant et puis bien sûr, nous en profiterons pour revenir avec lui sur l'histoire du football en général et sur l'histoire de l'Euro en particulier.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, il n'y aura pas de retour aux origines.
Bien non, parce que nous passerons directement l'antenne à Thomas Touroud pour des préparatifs du match entre les Espagnols et les Tchèques.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il était un footballeur sans pareil, rempli d'esprit et d'artifice. Son jeu était liberté et élégance, un jeu toujours, jamais une lutte. Voilà quelques lignes qui sont venues sous la plume de l'écrivain autrichien Friedrich Thorberg et qui décrivent cette espèce de prodige que fut Matthias Sindelar. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est probablement le meilleur footballeur autrichien de tous les temps. Celui qu'on appelle le tourbillon viennois n'a pas été élu sportif autrichien du XXe siècle par hasard. Vous imaginez, il a vraiment à son actif, à son palmarès, des victoires et des tours de force incroyables. Mais Sindelar est aussi entré dans l'histoire pour avoir désobéi au Troisième Reich. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Nous sommes le 3 juin 1934, en fin d'après-midi à Milan. Il faut imaginer une petite pluie d'été qui vient rafraîchir le stade bouillant de San Siro, mais qui va rendre évidemment, à force de s'accumuler sur la pelouse, qui va rendre le terrain boueux. La tension monte parmi les 35 000 spectateurs. Ils se livrent à une sorte de bouillonnement. Hein. On entend le son qui monte, les équipes chantent, enfin en tout cas les supporters chantent. Certains plient les feuilles d'avant-match pour en faire des couvre-chefs afin de se protéger de la pluie. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale de Coupe du Monde de football. Il s'agit de la seconde édition de la compétition, la première ayant eu lieu 4 ans plus tôt en Uruguay. Cette demi-finale oppose d'un côté l'équipe d'Italie, la Squadra Azzurra, avec son maillot bleu azur. Elle est déterminée, confiante, elle est aussi sous pression. Elle joue chez elle pour un ticket en finale et dans la tribune d'honneur. Benito Mussolini, le Duce, compte bien voir l'équipe nationale remporter la coupe et montrer au monde entier l'un des résultats de sa politique fasciste. On est en 34 encore une fois. Et puis, face à l'Italie, la meilleure équipe d'Europe, l'Autriche, alias la Wunder Team, l'équipe miraculeuse, vêtue de rouge et de blanc aux couleurs du drapeau autrichien, elle est la favorite du tournoi. L'équipe est réputée pour la fluidité de son jeu et pour sa qualité technique. Cette demi-finale entre l'Italie et l'Autriche s'annonce comme un très grand match. Si l'équipe autrichienne pratique un jeu aussi subtil, aussi fluide, elle le doit principalement à deux hommes. Hugo Meisel, qui est l'entraîneur de l'équipe, et puis surtout Matthias Sindelar, l'attaquant vedette de la formation. Il vit à Vienne, il ne fait jamais de fausses notes, dit-on. On comprend pourquoi l'Europe entière l'a surnommé le Mozart du football. Il est assez frêle, grand, un peu mince, on va dire, mais alors vif comme l'éclair. Ses dribbles sont foudroyants, ses feintes dévastatrices, ses frappes sont réputées puissante. Il faut l'imaginer grand, blond, très dégarni, hein, le front très dégarni, un nez aquilin, un visage qu'on dit enfantin du fait de l'éclat du regard. Il est aussi à l'aise du pied gauche que du pied droit, ce Sindelar. Il va vite, il est très efficace lorsqu'il arrive devant les cages de but et au cours de sa carrière avec l'Austria de Vienne, c'est le club auquel il aura appartenu presque toute sa vie, il aura marqué 600 buts en 700 matchs. matchs, vous imaginez. Il a remporté un championnat, 5 coupes nationales, 2 coupes de l'Europe centrale. Et pourtant, on peut dire que rien ne prédestinait Matthias Sindelar à cette carrière. Il était né en Bohême-Moravie au tout début du siècle, en 1903, donc tout près de la frontière tchèque. Il a 14 ans lorsque son père est tué sur le front italien en pleine Grande Guerre. Sa famille est installée, à ce moment-là, va déménager. Elle s'installe à Vienne, dans un quartier ouvrier où vivent pas mal d'immigrés. Sindelar apprend donc le football comme ça, dans la rue, et très vite, son talent est une évidence pour tous ceux qui le voient. À 21 ans, il a signé un contrat professionnel avec l'Austria de Vienne. Ça, c'est le point de départ de sa carrière, et vous l'aurez compris, Sindelar, même s'il est très habile, a un talon d'Achille qui est sa fragilité, d'où son autre surnom, l'homme de papier. Cette fragilité, l'Italie compte bien en profiter lors de cette demi-finale de Coupe du Monde. Alors que le score est toujours nul, que la tension est palpable sur le terrain et dans les tribunes de San Siro, Sindelar est victime d'une faute d'un de ses adversaires, une faute sur lui, un tacle à la gorge, comme disent les supporters. Son genou gauche tourne sur lui-même, il se vrille, il se brise presque. Le coupable, c'est le milieu de terrain Luisito Monti, qu'on surnomme Dobre Anche du fait de sa largeur. Hein. Il est aussi épais que rugueux. Matthias Sindelar a été grièvement blessé par l'épouvantable colosse Monti, nous dit Eugène Saccomano, tueur attitré de la squadra qui a pratiqué un jeu à l'anglaise kick and rush, brutal dans la forme et dans le fond, contre la technique, la fluidité et l'imagination des Autrichiens. Mussolini est soulagé. C'est vrai que le Duce a quelque peu brouillé les cartes dans ce match. Hein. Ces hommes de main ont fait pression sur tout le monde. Ils ont menacé l'arbitre, ça on connaît par cœur. D'ailleurs, l'arbitre va aller jusqu'à refuser 2 buts qui étaient parfaitement valables en faveur de l'Autriche. Il valide un but autrichien qui pourtant était grossièrement entaché d'une position de hors-jeu. Il ne sanctionne pas Monti dans son attentat, si je puis dire, contre Sindelar. Et à mesure que passent les minutes, la Wunder Team est en train de voir s'envoler ses chances de gagner ce match.
De la bande originale du film américain À nous la victoire, une musique composée par Bill Conti. Restez avec nous sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand a chaussé les crampons pour vous raconter l'histoire de quelques footballeurs de légende. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand se met aux couleurs de l'Euro de foot avec une émission consacrée aux footballeurs de légende. Et vous nous racontez cet après-midi l'histoire de ce footballeur autrichien qui a marqué l'histoire du foot, Matthias Sindelar.
Et ce Matthias Sindelar va voir peu à peu la politique s'immiscer dans le sport. Il l'a vu face aux Italiens en 1934, il va falloir qu'il s'y fasse parce que en 1938, c'est l'Anschluss, vous savez, cette annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. J'ai eu l'occasion de vous en parler un certain nombre de fois. Le 12 mars 38 exactement, l'armée allemande entre dans Vienne sans tirer un coup de feu. D'ailleurs, il y a toute une foule qui est là des deux côtés, qui acclame les troupes hein, et qui crie « Vive le Führer ». Le surlendemain, Hitler proclame l'Anschluss, donc l'annexion, et il offre les clés de la ville à un Autrichien nazi, Arthur Seyss-Inquart, qui va mener une politique dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est très très pro-allemande. Un mois plus tard, un référendum est organisé et l'annexion est approuvée par la quasi-totalité des Autrichiens. N'oublions jamais cet aspect. Alors, il faut dire que cette annexion, elle était programmée, si je puis dire, depuis la mort du chancelier fédéral, hein, depuis la mort de Dollfuss 4 ans plus tôt. Ce dernier avait tenté de s'opposer à la montée du national-socialisme allemand. Il a été froidement abattu dans la chancellerie même, par les nazis autrichiens. Bref, l'Autriche est devenue allemande et elle est largement nazie. Reste à faire entrer dans les consciences cette espèce de fusion entre les deux peuples. Et c'est là que le sport en général et le football tout particulièrement peuvent jouer un rôle, tout en préservant évidemment une certaine différence en Allemagne, dans la nouvelle grande Allemagne, dans le Reich, entre Allemands du Nord et Allemands du Sud, bien entendu. L'équipe d'Autriche, en 1938, reçoit la Mannschaft au stade du Prater, donc à Vienne. Il faut vous dire que Matthias Zindelar a déjà été approché par la formation allemande, parce que on se dit qu'il ferait un excellent, évidemment, une excellente recrue pour l'équipe allemande. Il intéresse le Reich par son talent, mais aussi, ne l'oublions jamais, par sa popularité. Et après tout, s'il devenait le capitaine d'une équipe réunifiée, alors là, pas question pour Zindelar, qui invoque officiellement son âge. Il a quand même 35 ans, ce qui est beaucoup pour un sportif. Il est blessé au genou, vous l'avez vu, depuis 1934. Là, en l'occurrence, il doit jouer ce match avec l'Autriche. Il se demande d'ailleurs s'il faut le faire. Zindelar prend la parole, voilà ce qu'il dit. « J'ai longtemps hésité, mais nous jouerons pour nous. Pour les parties que nous avons faites ensemble et que nous ne referons plus, sans doute, pour l'Autriche. » Et pour le président Schwarz, il doit quitter le pays parce qu'il est juif. On est assez loin de l'unanimisme de mise. Lorsque les joueurs, ce jour-là, pénètrent sur la pelouse du stade du Prater, on peut dire que la foule s'est mise un peu au diapason. On a l'impression d'être à Nuremberg pour un des grands meetings du parti. Vous savez, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, lui-même est passé par là. La croix gammée est partout. On se croirait dans un film de Leni Riefenstahl. Elle vient de finir d'ailleurs son film sur les dieux du stade dont nous parlions l'autre jour, à propos des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. La tribune officielle est remplie d'uniformes verts et noirs. Au centre se trouve l'ami autrichien du Führer, Zeiss Inquart, accompagné du ministre des Sports allemand. L'équipe d'Allemagne est sûre de sa victoire. La formation autrichienne est nettement plus tendue. C'est la dernière fois qu'elle va jouer devant ses supporters. Alors, on entonne l'hymne national autrichien, mais un peu du bout des lèvres pour ne pas offenser le cousin, quasiment maintenant le frère germanique. Zindelar s'est promis de ne pas y aller trop fort pendant ce match. Mais que voulez-vous, le naturel reprend le dessus. Il a beau faire, il a beau réfréner ses propres ardeurs, il va littéralement humilier les défenseurs adverses par ses feintes, par ses crochets, etc. C'est le Mozart du football. À l'heure de jeu, c'est-à-dire après 60 minutes de jeu, il décroche une frappe formidable de l'intérieur du pied. Il va expédier le ballon en pleine lucarne. Depuis les 30 mètres, le ballon est hors de portée des gants du gardien Hans Jakob. Le stade explose devant cet exploit et l'Autriche s'impose 2-0, sans forcer, si je puis dire. Dans les rues de Vienne, c'est la fête, raconte Eugène Saccomanno. Un délire bon enfant, des litres de bière. Même s'ils ont voté pour le rattachement à la grande sœur allemande, les Autrichiens n'oublient pas le talent de leurs footballeurs, leur générosité et l'amour de la patrie qu'eux-mêmes ont perdu. À l'issue de la rencontre, les joueurs doivent saluer la tribune officielle, bien entendu. Les bras se tendent et l'on entend « Heil Hitler ». Tous les bras se tendent, sauf ceux de Zindelar et de son fidèle coéquipier Sesta, qui vont rester de marbre face à tous ces officiels nazis. Vous imaginez l'effronterie. Zeiss Inquart, le représentant d'Hitler, s'écrie « Mais c'est une insulte au Führer !» Et depuis son bureau à Berlin, Goebbels étouffe de rage. Le bureau d'Himmler prévient la Gestapo autrichienne et on se demande si les deux joueurs ne devraient pas être écartés. Quand je dis écartés, vous me suivez, écarté pour de bon. Seulement, la police d'État, la Geheime Staatspolizei, la Gestapo, pense encore pouvoir convaincre Zindelar. Il serait tellement dommage de gâcher un talent pareil et de ne pas profiter de sa renommée, puisqu'il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde s'annonce, elle est là, pour très bientôt, dans 2 mois, elle doit se tenir en France. À la radio, Goebbels s'exprime. Les Viennois ont leur idole, le grand footballeur Zindelar, dit-il. Nous voulons croire, et même nous en sommes sûrs, que Zindelar sera digne de cette estime dans les futurs rendez-vous de l'été prochain en France. Il nous sera utile pour la victoire finale. Alors, petit à petit, la Gestapo fait monter la pression. Elle sait que la femme de Zindelar Camilla est juive. Cette dernière n'a d'ailleurs plus le droit de pratiquer son métier d'institutrice. Mathias lui-même est soupçonné d'être juif via sa grand-mère maternelle. Le couple est maintenant surveillé 24 heures sur 24 et l'on convoque régulièrement le mari et la femme au bureau de la Gestapo. Camilla voudrait quitter l'Autriche, elle ne songe qu'à partir pour l'Italie, la France, la Suisse. Elle supplie Mathias, mais lui se refuse à ce départ. Il se dit que sa célébrité, sans doute, va les préserver. La preuve, son ami Sesta, qui n'a pas fait le salut nazi après le match, vous savez, contre l'Allemagne, a été emprisonné 15 jours. Lui, on n'a pas touché à un cheveu. Il n'a pas été arrêté. Zindelar n'arrive pas, comme beaucoup, beaucoup d'autres personnes menacées d'en Vienne. Il ne se résout pas à quitter sa ville, cette ville où sa carrière de footballeur a commencé. Il n'arrive pas à quitter son pays.
Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous propose une émission spéciale consacrée aux footballeurs de légende. Si vous voulez réagir à cette émission, si vous avez des questions à poser à Franck Ferrand et son invité Eugène Saccomanno, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook au cœur de l'histoire. La suite, c'est dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et ce sont les footballeurs de légende qui sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, avec d'abord un gros plan et le portrait de Mathias Zindelar, ce footballeur autrichien menacé par la Gestapo et qui refuse de quitter l'Autriche.
Et oui, et à Vienne, en cette fraîche nuit du 9 novembre 1938, tout semble encore paisible. Le couple Zindelar est dans son appartement, ils sont en train de lire hein, l'un et l'autre près du feu crépitant, et puis soudain, une pierre qui brise les carreaux d'une fenêtre côté rue. Dehors, la foule en furie est en train déjà de piller le rez-de-chaussée de l'immeuble en hurlant. L'éclairage public s'est éteint. Vous imaginez, on n'entend plus qu'on ne voit. C'est assez terrible. On brandit d'une façon menaçante des torches. Mathias et Camilla ne comprennent pas ce qui se passe. Certains excités sont montés carrément à l'étage. Et maintenant, ils tambourinent à la porte. « Sale juif » crie-t-il. « Tu nous as fait perdre la Coupe du Monde. Tu es un porc. On va te pendre haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive. » Les Zindelar vont bientôt découvrir ce qui se passe. Ils sont au cœur de ce qu'on appelle la nuit de cristal, ce coup de force des nazis sur tout ce qui est juif. Vous savez, il faut savoir que quelques heures plus tôt à Paris, un jeune juif avait assassiné le secrétaire d'ambassade allemand von Rath. Et les nazis ont lancé toute une série de représailles sanglantes à travers l'Allemagne, les Sudètes, l'Autriche, etc. De la synagogue de Lazerberg, on aperçoit des gros bouquets de flammes, raconte Eugène Saccomanno. C'est l'incendie plus près sur l'Aher. Ils ont sorti et brûler les rouleaux de la Torah, ont tué des juifs à leur faciès. Cette nuit, 91 d'entre eux seront assassinés, seulement dans le centre de Vienne. Le lendemain, les autorités religieuses pourchassées chiffreront à 267 le nombre de synagogues détruites ou incendiées. 30 000 hommes seront arrêtés et expédiés à Dachau et à Buchenwald. Mathias Zindelar et sa compagne sont sains et saufs, mais ils ont été complètement choqués. Le café que Mathias possède a donc été pillé sur la devanture. On a écrit à la peinture blanche « cochon de juif ». Le couple, évidemment, songe maintenant vraiment à aller s'installer à Paris, où Mathias d'ailleurs pourrait jouer après tout. C'est pas tant la taxe de sortie de 40 000 Reichsmark, 5 000 dollars qui tracasse le joueur, c'est qu'en fait il ne veut pas abandonner sa ville en dépit de ses malheurs. Vous savez, on avait pour la télévision il y a quelques années réalisé un film là-dessus sur l'hésitation de tous ces juifs de Vienne qui se demandaient si oui ou non ils allaient partir et qui pour beaucoup d'entre eux sont restés évidemment avec les pires des conséquences. Il n'a pas non plus l'intention d'abandonner son équipe pour le dernier match de l'Austria. La formation viennoise est en finale du tournoi national face au Hertha Berlin. La rencontre a lieu le 26 décembre 1938 au stade olympique de Berlin. 60 000 spectateurs, quasiment tous allemands, il y a juste une centaine de supporters autrichiens. Le match commence, l'équipe du Hertha Berlin joue plutôt bien, ouvre le score. Le gardien de but viennois détourne comme ça plusieurs tentatives. Mais une fois de plus, une fois encore, Zindelar va briller. Il est l'auteur d'une passe décisive pour son coéquipier Bican et ça égalise à un partout. La pelouse est en mauvais état, ça favorise pas le développement du jeu autrichien qui, vous l'aurez compris, est un jeu très technique. Les Allemands, eux, galvanisés par leur public, marquent à nouveau 2-1. Il reste 10 minutes à jouer. Une nouvelle fois, Zindelar va faire donner son talent. Il tente une reprise de volée. C'est un tir somptueux des 18 mètres qui nettoie la lucarne adverse. Le stade Et sidéré, tout le monde retient son souffle. L'Austria revient à 2-2 et finalement ce sera match nul. Un match nul qui arrange un peu tout le monde puisque comme ça les deux équipes, si vous voulez, deviennent championnes d'Allemagne. Mathias ressent un mince espoir. Il se dit qu'avec ça, la Gestapo va sans doute le laisser un peu tranquille. Et lors de la remise de médaille, sans doute pour se montrer conciliant, il va faire le salut nazi. Il rentre à Vienne, il va profiter du réveillon de Nouvel An pour essayer de tourner la page sur cette triste année 1938. Au menu des Indelar, du saumon trouvé au marché noir, un potage de pâte au bouillon de viande, le chapon traditionnel. Et en dessert, la Zahrertorte, typiquement viennoise, bien entendu, arrosée de champagne. On rit ce soir. Là, on danse. Il fait bon chez les Indelar grâce au nouveau poêle à gaz. Notez bien cela. La nuit de cristal, un mois et demi plus tôt, paraît déjà bien loin. Et pourtant, 3 semaines plus tard, au matin du 23 janvier 1939, on va retrouver inertes les corps de Mathias et Camilla. Chez eux, la Gestapo dépêche des hommes qui croisent des pompiers. Ils leur disent « Rien de ce que vous avez vu ou entendu ne doit sortir de cette chambre. C'est un ordre qui vient de très haut. » Mathias Zindelar et Camilla Castagnola sont donc morts, intoxiqués au monoxyde de carbone, un peu comme l'avait été Émile Zola 37 ans plus tôt. Reste à savoir, un peu comme pour Zola aussi, si cette mort est le fruit d'un simple accident, ou bien d'un meurtre, ou bien pourquoi pas même d'un suicide. Bonjour Eugène Saccomano.
Bonjour.
Vous avez pendant 20 ans dirigé les sports dans cette maison Europe 1, alors bienvenue chez vous. Nous avons hâte d'avoir votre avis sur la mort de Zindelar. Et puis, puisque nous vous avons avec nous cet après-midi, on va en profiter pour évoquer un certain nombre de footballeurs de légende.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire des footballeurs de légende en plein Euro 2016. Avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez Eugène Saccomano qui a été pendant plus de 20 ans le directeur des sports à Europe 1, qui est passé à RTL, à LCI et qui a créé l'émission mythique On refait le match.
Alors Eugène Saccomano, vous avez surtout écrit un ouvrage qui s'appelle Le mystère Zindelar, dont s'est beaucoup inspiré Gabriel qui a écrit ce récit d'aujourd'hui. Le footballeur, dites-vous, qui défia Hitler. C'est vrai que le régime du Troisième Reich, le régime nazi, était très embêté à la fois par la popularité, par la puissance de feu, mais aussi, disons-le, par le talent de ce Zindelar. On va y venir dans un instant. D'abord, le mystère lui-même. De quoi sont morts les Zindelar, le mari et la femme?
Alors, le mystère lui-même, personne ne l'a élucidé. 80 ans plus tard, enfin à peu près, et on ne sait toujours pas comment, dans quelles circonstances ils sont morts, tous les deux. Alors elle a bénéficié de 48 heures, la pauvre, on l'a amenée à l'hôpital, elle n'était pas morte sur le coup, elle. Lui, on l'a retrouvé complètement mort.
C'est exactement comme dans le cas de Zola, sauf que là, elle n'a pas survécu.
Oui, et puis Zola, finalement, on a connu les raisons de sa mort.
De ce qui était donc bien un assassinat.
Oui, absolument. Tandis que pour Zindelar, le poêle dont il est question était absolument neuf, il fonctionnait parfaitement et donc il n'y avait aucune raison d'expliquer qu'il avait été donc tué par les émanations de gaz. C'est pas vrai. Alors le problème essentiel dans cette histoire-là, ce qui définit finalement le mystère, c'est que personne n'a pu expliquer cela, et surtout on n'a pas voulu expliquer cela. C'est-à-dire que la Gestapo a pris en charge immédiatement la mort de ces deux personnages, enfin de Zindelar, et les premiers qui sont arrivés sur les lieux, d'abord il y a eu la concierge qui a prévenu la police bien entendu a prévenu la Gestapo.
Oui, immédiatement.
Voilà, immédiatement, les pompiers sont arrivés, enfin je raconte tout ça, et on a découvert que lui, en tout cas, était mort. Elle avait encore quelques heures. Et on n'a pas pu. Donc, il n'y a pas eu d'autopsie. Il n'y a pas eu de traces d'empoisonnement. Il n'y a pas eu. On n'a pas pu savoir le jour même les raisons de la mort de Zindelar.
Et ça. Il y a vraiment deux possibilités. Si l'on exclut l'accident, qui paraît vraiment très peu probable, il est toujours possible, mais il est très peu probable, les deux grandes possibilités, ce soit que les épouses Indelar se soient dit que la vie pour eux devenait invivable, presque impossible, et qu'ils aient préféré le suicide. Ça a été le cas de bien d'autres, hein, d'ailleurs, malheureusement. Il y a eu énormément de gens qui se sont suicidés à cette époque.
Oui.
Ou bien alors, comme leur éventuel départ pour la Suisse, voire pour la France, aurait été un camouflet pour le régime, aurait été un problème politique majeur, alors ils auraient pu être tout simplement assassinés, c'est-à-dire qu'on aurait trafiqué leur chaudière à gaz.
Voilà. Absolument. Alors donc, on ne saura jamais exactement. Alors c'est vrai qu'ils avaient des projets de venir en France où il y avait déjà des footballeurs autrichiens en France. Un très connu, Iden, qui était un grand gardien de but, Gusty Jordan. Il y avait, et puis ils avaient leur ancien président, le docteur Schwartz, qui avait été viré de l'Austria de Vienne parce qu'il était juif et qui s'était réfugié en Suisse. C'était un très bon praticien. Et il était très ami avec Sindelar. Donc il y avait cette possibilité. Mais il faut savoir d'abord une chose fondamentale dans cette histoire, c'est que Sindelar était bien connu à la frontière, la Tchécoslovaquie, était profondément donc autrichien.
Ah oui.
Et viennois. Il faut pas oublier que Vienne, à l'époque, c'est la capitale culturelle de l'Europe. Hein, Paris, c'est, on se moque un peu là-bas de Paris.
Oui, ce sont enfin, il y a Londres, Paris et Vienne qui sont les trois capitales. Et c'est vrai que Vienne a rayonné au début
bien
du XXe siècle.
Hein. Puis il y a surtout la musique. La musique, l'opéra, la littérature.
Bien entendu.
Zweig et tout.
Et lui, par attachement à sa ville et à son pays, a refusé cette espèce de fusion dans la Grande Allemagne.
Oui.
Est-ce qu'il était juif lui-même? Parce qu'on l'a beaucoup dit, mais...
Oui, on l'a beaucoup dit, on n'a jamais pu le savoir exactement. Sa grand-mère maternelle aurait été juive. Enfin, on suppose qu'elle était peut-être juive, mais là aussi, il y a interrogation, donc on ne peut pas le savoir d'une façon formelle.
C'est quand même intéressant de voir à quel point ces considérations sportives, là on parle quand même de matchs de football, et encore dans les années 1930, il va bientôt y avoir un siècle quand même de tout ça. C'est quand même étonnant d'imaginer que ça a pu avoir un tel impact politique. C'est toute la question subtile et passionnante des rapports entre sport et politique à partir moment où le sport devient une sorte de vitrine nationale. On s'en rend compte en ce moment, là, hein, de façon, on est aux premières loges, hein, avec l'euro. Hein.
Mais c'est terrible parce que, effectivement, lui, il a fait preuve de bonne volonté, hein. Il a affiché d'entrée son hostilité à l'Anschluss, ça c'est vrai, mais après il a fait preuve de, par exemple, les Allemands lui ont demandé d'assister à la Coupe du Monde en France en tant qu'observateur. Et il est venu en France. Alors là où j'ai un peu imaginé, parce qu'il y a une partie qui est romancée. Là, j'ai imaginé un peu en France.
La vie
un peu dingue avec Cocteau, avec Al Brown et tout. Bon. Mais il était enthousiasmé par la vie parisienne. Ça, c'est vrai. Quand il est revenu, il avait plus envie d'aller en France, où il y avait déjà des Autrichiens, qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y avait une possibilité dans certaines villes et dans certains pays ou certains clubs, où il y avait un accueil relativement chaleureux pour les Juifs, notamment Tottenham ou l'Ajax d'Amsterdam, parce que ça existe encore, hein, je veux dire. C'est...
Alors, vous l'avez deviné, Eugène Saccomanno, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du football, et sachant que j'allais vous recevoir, j'étais dans mes petits souliers, comme on dit, je suis allé voir comment était classé Matthias Sindelar dans l'espèce de grand palmarès des meilleurs joueurs de l'histoire. Bon, on le considère comme 22e joueur de l'histoire, ce qui est déjà pas mal, entre nous, soit dit. Qu'est-ce qu'il faisait sa spécialité à l'époque et pourquoi est-ce qu'il était devenu une sorte de mythe?
Vous savez, à l'époque, il est quand même le meilleur. Il partage la première place mondiale, un peu comme actuellement Messi et Cristiano Ronaldo. Il est donc le meilleur joueur du monde avec Leonidas, qui est un Brésilien et qui est un type formidable aussi dans le jeu, comme le sont tous les Brésiliens.
Ils sont d'une précision, d'une subtilité, hein, c'est ça, c'est un jeu tout en finesse, le jeu de Sindelar.
Voilà, absolument. Sindelar avait toutes les qualités d'un grand footballeur, parce que non seulement il avait la finesse, comme vous dites, c'était un type qui savait conduire un ballon, qui savait parfaitement faire un amorti, un contrôle, etc. Mais il avait aussi, quand les circonstances s'y prêtaient, une puissance de feu, un tir terrible.
Mais alors, ce tir terrible sortait d'un bonhomme un petit peu fragile, quand même, il faut le dire.
Oui, oui, parce que quand on regarde les photos, qui sont rares d'ailleurs, hein, d'ailleurs la couverture du livre est symptomatique, parce que c'est une des rares photos qu'on ait pu exploiter, où on voit bien que là, c'est un type mince. On l'appelait aussi Papyrène.
Avec une sorte de bandeau au genou, en fait. Hein,
oui, sa blessure, ça. Et on l'appelait Papyrène aussi, le Mozart du football, c'est vrai, mais l'homme en papier.
L'homme de papier.
L'homme de papier. Et donc, c'était un type qui était fragile, mais qui savait esquiver son entraîneur, dont vous avez parlé tout de suite tout à l'heure. Son entraîneur, il disait toujours, quand il y a de la bagarre, ou quand tu vois deux ou trois types qui s'approchent de toi pour te tacler, n'insiste pas.
On a l'impression que, c'est peut-être une impression, mais à cette époque, le jeu était nettement plus viril au football. Ça ressemble un peu au rugby d'aujourd'hui, si je puis dire. Hein. Il y avait quand même une confrontation assez sévère.
Probablement, oui, sans doute. Il n'y avait pas autant de sanctions que maintenant. Il n'y avait pas de carton rouge ni de carton jaune. Oui. Et donc, les types en profitaient un peu comme au moment où il est italien. Et c'est vrai que le jeu était plus sévère, et même à l'échelon mondial, hein, européen du moins. On le sait bien.
Et est-ce qu'on jouait comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des changements dans la manière de pratiquer le football entre 1935 et aujourd'hui?
Oui, très probablement, parce que à l'époque, on se souciait avant tout du jeu, de la beauté du jeu, si j'ose dire. Hein. Et alors que maintenant, on se soucie essentiellement du résultat. Il faut gagner à tout prix, quels que soient les moyens que l'on emploie. Enfin, je veux dire, même si on joue mal, si on gagne, c'est essentiel. Or, à l'époque, il fallait d'abord bien jouer au football. Et Sindelar était le type même du gars qui savait bien jouer au football.
Il fallait offrir du spectacle, en fait, que ce soit mieux techniquement, que ce soit beau.
Voilà.
Les joueurs avaient des places un peu plus déterminées sur le terrain aussi, semble-t-il. Hein. On se promenait moins, si je puis dire.
Oui, parce que se promener sur les terrains et jouer sans ballon, c'est un peu Cruyff qui a inventé ça, c'est-à-dire jouer sans ballon, effectivement, c'est-à-dire que pendant le ballon d'un côté, faire en sorte que le type qui a le ballon puisse vous remarquer, vous qui n'avez pas le ballon. Et donc, ça n'existait pas à l'époque. On ne jouait pas comme les minimes ou les pupilles, quand même, qui courent tous, les 22 joueurs autour du ballon. Mais quand même, c'était comme ça. C'était moins pensé qu'aujourd'hui, moins réfléchi.
Alors, nous allons revenir sur un certain nombre de figures du football, et notamment sur quelques joueurs qui ont utilisé leur immense talent au football pour faire avancer un peu la politique de leur pays. Vous allez voir, je vais vous citer leurs noms. À mon avis, ça va vous dire quelque chose, Eugène Saccomano.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Certainement tous reconnu un extrait de la bande originale du film Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Un film qui a été inspiré du livre Bandit à Marseille, écrit par Eugène Saccomano, qui est votre invité, Franck Ferrand. Il est aussi l'auteur du Mystère Sindelar, le footballeur qui défia Hitler, paru aux éditions de Paris, Max Chaleil.
Et oui, et c'est pour rendre hommage, cette petite musique, pour rendre hommage, Eugène Saccomano, à vos talents d'auteur. Alors, c'était amusant parce qu'il faut toujours faire profiter nos auditeurs de ce qui se dit pendant l'interruption publicitaire. Et là, en l'occurrence, nous parlions de ces espèces de classements qui sont établis tantôt par les fédérations, par les joueurs, les journalistes, etc.
Les journalistes aussi.
Alors, on dit que le plus grand joueur de tous les temps, c'est Pelé, et vous n'êtes pas d'accord, vous dites non?
D'ailleurs, je suis moins d'accord maintenant. Effectivement, on l'a idéalisé, on a dit Pelé, c'est le meilleur, le plus grand. tout ça parce qu'il avait fait une Coupe du Monde extraordinaire dans les années 70. Mais moi, je trouve que techniquement, footballistiquement, le meilleur, c'est Maradona. Bon, c'est un sale type, mais sur le plan du football, c'est quand même un type étonnant parce qu'il avait toutes les qualités dont... Et Pelé n'a pas toutes les qualités de football. Il n'avait pas cette technique éblouissante de Maradona. Il ne faut pas oublier que Maradona, il part contre l'Angleterre, c'était en 94 ou 98, je ne sais plus. Il part du milieu de terrain, même pas de son camp, il dribble 10 types.
Oui, c'est vrai.
Et il va marquer, indépendamment de la main de Dieu.
Alors il faudrait citer Di Stefano, Beckenbauer, bien entendu. Johan, alors je ne savais pas si on disait Cruyff, Cruyff, etc. Vous dites on dit comme on veut.
Cruyff,
allez, qui a été quand même un immense, lui, vraiment, qui nous a quittés, là, il y a très peu de temps, au mois de mars dernier.
Et puis. La cigarette.
Et voilà. Et puis Ferenc Puskás. Alors ça, il faut expliquer qui il est, lui, parce que il a un rôle dans l'histoire de ces footballeurs qui se sont opposés à des régimes politiques.
Bon, alors certains se souviennent qu'en 1956, les Russes ont envahi la Hongrie, ont envoyé les chars, et donc les Hongrois étaient complètement surpris. Ils étaient bien sûr dans le régime communiste de l'Est de l'Europe, et ils se sont révoltés, ils ont canardé les chars à coups de bouteilles, à coups de... Bon, et il y a beaucoup de Hongrois qui étaient contre leur pays envahi par les soviétiques. Et il y avait de très bonnes équipes de football hongroises, dont une qui s'appelait Honved, et qui était l'équipe de l'armée, dans laquelle jouait celui qu'on avait surnommé le Major Galopant, c'est-à-dire Puskás, et qui était à l'époque le meilleur joueur du monde. Puskás, alors là, aucune contestation. Et figurez-vous que le patron à l'époque, qui avait été... Quand les Russes sont arrivés, il y a eu un grand flou, et il y a eu un type qui était un peu plus libéral que les autres, qui s'appelait Imre Nagy,
Bien sûr, qui a
autorisé donc Honved à aller jouer à l'étranger, alors que c'était difficile à l'époque. Et l'histoire s'est passée à Bruxelles, sachant que les Hongrois, les meilleurs du monde à l'époque, étaient à Bruxelles. Bah, il y a des émissaires du Real Madrid qui sont allés là-bas et qui ont réussi à déboucher Puskás et à l'enrôler au Real. Ça s'est passé à Bruxelles, alors que sa femme avait tenté de le rejoindre à pied, dit-on, mais je crois pas, de Budapest à Vienne. Sa femme et son enfant.
Il y en a d'autres, hein, des joueurs hongrois qui, comme ça, sont allés jouer, notamment en Espagne.
Kubala, par exemple.
Oui, Kubala, qui jouait, lui, au FC Barcelone.
Oui, il y a eu plusieurs joueurs hongrois. Puis il y a eu d'autres cas rarissimes, mais il y en a un qui fera pas plaisir à tous les Français d'entendre ça, mais il y a un célèbre qui était formidable, balle au pied, c'était Mekloufi, qui jouait à Saint-Étienne, et qui, avec une dizaine ou une quinzaine même de footballeurs originaires d'Algérie, du jour au lendemain, ils disparaissent. On apprend qu'ils ont pris l'avion d'une manière différente.
Ils sont allés prendre le maquis, surtout.
Ils n'ont pas pris exactement le maquis, mais ils sont allés à Tunis rejoindre le Front des Libérations.
Le FLN, oui.
Le FLN. Et à partir de là, ils ont fait une espèce de tour du monde des pays non alignés, comme on disait à l'époque, et des pays communistes qui les accueillaient. Ils ont vécu pendant longtemps. Alors, certains sont revenus quelques années plus tard, notamment Mekloufi, mais ils avaient fait un acte de rébellion. Mmh. Ça, c'est vrai.
Et avec, évidemment, l'impact que ça peut avoir.
Et oui.
C'est que le football est devenu maintenant un événement mondial d'une importance considérable. Je crois qu'on s'en rend vraiment compte en ce moment avec cet Euro de football. Oui. C'est devenu un événement télévisuel. Oui. Pendant très longtemps, c'était un événement de radio.
Hein, ça, oui.
Ne l'oublions pas, Eugène Sacomano.
J'en sais quelque chose.
D'ailleurs, tenez, je vais vous rafraîchir la mémoire si vous voulez. C'était il y a 32 ans, le 27 juin 84, pour une finale de l'Euro.
Amoros pour Tigana, Tigana pour Belon. Bellone au sol, entre dans la surface de réparation, va tirer, marque, Bellone fait le break, Bellone marque le deuxième but de l'équipe de France, Bellone fait le break dans les dernières secondes du jeu, Bellone fait le break pour l'équipe de France, 2-0, ce sera plus honorable pour une équipe de France qui a souffert mille morts pour devenir championne d'Europe, car cette équipe de France et championne d'Europe.
Et voilà. Ça aussi, c'est un talent, le talent du commentateur qui nous donne des frissons. Oui, ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Eugène Saccomanno. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions de Paris, Le mystère Zindelar, le footballeur qui défia Hitler. Et puis, je voulais faire un clin d'œil à l'ami Laurent Luya avec ses coups du sport spécial Euro, les exploits, les coulisses, les insolites des Euros de 1960 à 2016. C'est aux éditions Ramsay. Merci beaucoup.